plaisir de vous retrouver le lundi à 20h
dans des valises en carton.
Conditions actuelles, 24 degrés.
Papyrus Sportive, CFLX 95.5 FM.
J'ai un fils enragé. Qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples et finances où il ne peut entrer, et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé, comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays.
Eh oui, 11 juin 2026. Bienvenue à votre émission. Rendez-vous hebdomadaire du jeudi midi. Donc, logement un droit. Aujourd'hui, ben, vous allez m'endurer tout au long de l'émission. L'avant-dernière de la saison, automne, hiver, printemps, tout ça, vous appelez ça comme vous voulez. Donc, il faut relâche pour l'été. Bien sûr, à moins qu'il arrive quelque chose, là, ben, l'émission va revenir avec, bien sûr, l'autorisation de la station et aussi, bien sûr, que je sois là puis que aussi aller chercher les collaborateurs, collaboratrices, comme d'ici bien l'annonce faite par ma petite fille Mélisande, les collaborateurs en feu de gauche. Et justement, ça va être un petit peu dans ce sens-là. Aujourd'hui, je vais commenter quelques nouvelles, bien sûr, actuellement, c'est sûr que la session, on va parler entre autres de la session parlementaire à Québec, qui se termine demain, fait qu'évidemment, ça a roulé pas mal fort. Mais lors du passage, à tout début de la saison, la table d'action contre l'approvisionnement en estrie, bien, sur leur page, il y a cette reconnaissance du territoire que je ne veux pas oublier à chaque fois comme tel. Et là, je prends le temps de lire au complet cette reconnaissance du territoire. Nous aimerions souligner et reconnaître que les terres sur lesquelles nous trouvons, le Ndakina, ben, font partie du territoire traditionnel non cédé de la nation Abenaki, de la Confédération Wabanaki. Par ces lignes, nous reconnaissons les conséquences du colonialisme qui marque encore aujourd'hui les membres du peuple, les peuples autochtones. Le colonialisme est un des nombreux systèmes d'oppression qui engendre des violences sur de nombreuses populations marginalisées au Québec et à travers le monde. Voilà donc ce qui était fort important comme tel. Et mon titre, bien sûr, de chanson de Félix Leclerc, « L'Alouette en colère », peut-être que à travers certaines nouvelles, vous allez l'être en colère un petit peu. Très souvent, on parle des fameuses dépenses. Bon, évidemment, vous allez me dire, quand ils vont faire des voyages pour l'économie, bien sûr, c'est important. Bon, on a un premier ministre, du moins au Canada, M. Carney, qui aime mieux les voyager que d'être d'être en Chambre des communes. Bon, alors, parce que dans les premiers ministres des dernières années, c'est lui qui a la moyenne la plus basse au bâton là, de présence à la Chambre des communes, comme telle, période des questions, entre autres. Bon, c'est sûr que vous allez me dire, il y a des ministres, il y a des députés pour répondre à toutes ces questions-là qui viennent de l'opposition et de partout. Mais les dépenses, comme telles, on peut penser, entre autres, au salaire. Je ne sais pas si avoir le même salaire la nouvelle gouverneure générale, là, mais 300 quelques mille, ça, c'est à part, évidemment, de sa résidence, à part de toutes les autres dépenses et son personnel aussi. Bon, là, on va parler, justement, j'ai mis, si vous êtes amis Facebook avec moi, je l'avais mis sur ça, puis c'est vraiment là un exemple, entre autres. Alors, si vous avez vu la photo ce matin, que j'ai mis autant sur la page, même la mienne, celle de l'Association locataire, aussi Coalition nationale contre la pauvreté, également aussi Sherbrooke se mobilise, ben il y a la ministre Joly qui doit annoncer ça, puis il y a M. Leblanc qui a un beau petit sourire. Ah. Alors, le titre dit ceci, l'équipe de Marc Carney trouve ça drôle qu'on parle de 200 000 $ de nourriture haut de gamme consommée à bord des avions gouvernementaux lors de seulement trois voyage. 200 000 $, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, part que de nourrir des gens en première classe dans les belles avions ou des avions non lisés, parce que ça, c'est pas évidemment ce que ça coûte pour comme tel. Ben, avec 200 000 $, ça pourrait être 20 000 repas à 10 $ pour des gens qui ont faim. Alors, on va parler d'itinérance, on va parler... Bon, c'est évidemment les banquets alimentaires. De temps en temps, je sors du texte, là, vous allez voir, c'est mon style. Équivalent de 4 années de salaire pour plusieurs Québécois. Plus de 650 paniers d'épicerie de 300 $ pour des familles qui peinent à joindre les deux bouts et des milliers de repas pour les sans-abri. Et ça, on va en parler, bien sûr, abondamment. Actuellement, c'est un grand sujet du jour, espérant que ça devienne pas juste un sujet, mais que ça devienne des réalités. Pendant que le monde coupe dans l'épicerie, ben, eux autres, ils rient. Donc, on voit M. Leblanc qui trouve ça drôle quand il en annonce. Le problème, c'est pas juste le 200 000. C'est l'arrogance de ceux qui le dépensent, qui trouvent ça drôle. Et là, on est autour du dîner, ça va peut-être vous donner, hein, l'appétit ou vous l'enlever complètement. C'est un article que j'ai lu, c'est une infolette que je reçois, évidemment, le groupe Plus à gauche, évidemment, Nouvelle des contribuables, qui met au courant, justement, les contribuables, l'argent. Souvent, les gens disent « Ah, ils donnent pour les pauvres, ils donnent pour ça. » Ben oui, parfait. Mais personne ne va s'indigner quand c'est des choses comme ça, là, comme tel, ben, je pense qu'il faut le dire, puis moi, ça m'indigne comme tel. Comment le premier ministre, d'ailleurs, dans cette lettre-là, comment le premier ministre a-t-il réussi à dépenser 195 400 $ en repas lors de 3 voyages internationaux? Et comme c'est des dépenses, évidemment, qui sont par le gouvernement, donc c'est des dépenses qui concernent la population, ben, ils ont obtenu des factures. Et ce que M. Carnet et son entourage ont consommé aux frais des contribuables a de quoi faire sourciller. Fait que, bon appétit, voyez-vous, au menu. Filet de bœuf avec sauce bordelaise, saumon écossais, poulet nappé d'une sauce au vin blanc, bien sûr des vins de haute gamme et haute extra dignes d'un restaurant gastronomique. C'est pas tout. Alors, pendant que donc, ça vous donne l'eau à la bouche, hein, donc il n'y avait pas des petits sandwichs là, comme tel, pendant qu'un contribuable paie la note de ses repas de luxe, les politiciens leur préparent également une facture de plus d'un milliard de dollars pour accueillir seulement 13 matchs de la Coupe du monde de soccer. Tout le monde s'énerve, puis là, je sors de là pour vous dire, entre autres aussi, comme tel, ben, que justement, ben là, on va dire, ben oui, mais cette coupe-là, ça génère, hein, M. Legault disait ça souvent, François Legault, François Legault disait souvent, oui, mais ça a des retombées économiques, ben oui, mais c'est un milliard pareil, là. Puis, si vous avez vu la dernière édition, peut-être que si vous écoutez l'émission Enquête, la première demi-heure, la deuxième était sur les intervenants, justement, d'Action Plus, David Bouchard, l'épuisement total face à la bureaucratie et l'injustice. Mais dans la première, l'autre injustice, comment fonctionne la FIFA, son président, son responsable, appelez ça comme vous voulez, directeur, ami de Donald Trump, à qui il a donné, d'ailleurs, ami aussi membre du Parti républicain, mais justement qu'il a donné un Nobel de la paix. Et donc, puis comment, même que l'ancien directeur de la FIFA a dénoncé la façon que ça fonctionnait. Fait que donc... Alors, vous voyez, là, justement, ces dépenses comme telles. On parle donc escalope de veau, filet de bœuf avec sauce bordelaise, saumon écossais, vin de haut de gamme, hein? C'est pas le menu de restaurant chic du centre-ville, ça? Même plus que ça encore. C'est ce que M. Carnet et son entourage ont consommé lors de, je le rappelle, de 3 voyages internationaux payés par les contribuables, selon les documents obtenus par la Fédération canadienne des contribuables, grâce à des demandes d'accès à l'information, ce qui doit se faire. Et seulement 3 déplacements. Bon, ils sont allés à Londres, bien sûr. Il a bien aimé ça parce qu'il a été pour la Banque d'Angleterre, M. Carnet, à Rome et Bruxelles. Donc, la facture de nourriture, seulement, là. Bon, ça, c'est à part les endroits, ils n'ont pas couché dans la rue, là, puis ils n'ont pas couché dans les auberges de jeunesse, certains, là. Hein? s'est élevé à 195 400. Et ce n'est pas seulement la nourriture. Lors de certains vols, les passagers pouvaient choisir parmi quatre vins différents. Fait que, vous avez soif, là, dont des bouteilles haut de gamme, comme le Clos Jordan, le grand Clos Pinot Noir 2017, le meilleur Family Vineyards Pinot Noir 2020, qui se vendent environ 55 chacune. Alors, comment le premier ministre et son entourage ont-ils réussi à engloutir près de 200 000 de votre argent en repas lors de seulement trois voyages? Et si j'avais été imprimé tout ce qu'il y avait dans l'article, là, ça serait encore plus volumineux, mais déjà, je pense que ça frappe. Je lisais encore ce matin, il y a le ministre Kakis puis son assistant là qui sont allés en voyage. Juste les billets, c'était de 20 000 pour deux billets. Pas pire, hein? Ils n'ont pas voyagé dans ce bagage. Si on revient à M. Carney, drôle, l'article dit « Fait passer Trudeau pour économe ». Bon, M. Carney s'est fait élire en promettant de réduire les dépenses gouvernementales. Oui. pendant que, pourtant, lorsqu'on regarde les factures, il réussit à faire paraître Justin Trudeau presque frugal. Oui. En 2025, dans le voyage à Rome, donc, Carney et son entourage ont facturé 93 780 $ en repas. Juste en repas, comme vous dites, ça part des autres choses là, aux contribuables. À titre de comparaison, lors d'un voyage similaire en Italie l'année précédente, Trudeau et son entourage avaient dépensé environ 43 000 $. Bon, quand même, c'est pas mal, mais il y a quand même 50 000 de différence, je compte vite, là. Autrement dit, Carney a dépensé plus du double de Trudeau pour nourrir les passagers d'un avion gouvernemental. Et le menu ressemblait, bien sûr, comme vous dites, à quelque chose d'assez grand. Fait que, vous savez, là, quand les gens s'indignent sur des dépenses, moi, je m'indigne sur celle-là, comme telle, puis sur le milliard pour la Coupe du monde, même si les sportifs crient, comme telle, à la joie, puis même... Ici à Sherbrooke, il y a des gens qui vont présenter ça à leurs membres, d'autres au centre-ville. Bon. On va venir justement à notre gouvernement provincial. Donc, il y avait toute une liste d'épiceries, si on peut dire, comme telle, pour des projets de loi. Il y avait le projet de loi 20 sur l'accès au logement. Alors, évidemment, il y avait eu une montée. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de mobilisation d'un côté. La mobilisation était forte de partout, entre autres au niveau des fédérations et des coopératives, parce que ce projet de loi-là faisait que ça pouvait faire que quelqu'un qui est en coopérative, s'il gagnait un petit peu plus que supposé être, ben, on l'enlève, il s'en va ailleurs, puis on essaie de mettre quelqu'un d'autre à la place, comme si ça, c'était pour régler le problème de crise du logement. Alors, évidemment, la nouvelle ministre, Karine Boivin-Roy, qui était aussi inconnue, sûrement que moi, je peux l'être dans bien des choses, là, qui a succédé à Mme Laforêt et à Mme Duranceau, qui ont donné des grands coups de hache dans les programmes comme tels. Ben, les membres de Coop se sont mobilisés et finalement, ce projet de loi-là, 20, ben, il a été abandonné. Donc, le gouvernement du Québec a abandonné. Maintenant, pour s'assurer que les fonds publics insuffisants destinés au logement social et abordable contribuent à favoriser l'accès au logement, il faut cesser de forcer l'inclusion de logements abordables intermédiaires à 150% du loyer médian du marché dans les nouveaux projets de coop et d'autres logements sans but lucratif, incluant des logements publics. C'est un article qui vient du Frappru, évidemment, qui avait son congrès, justement, en fin de semaine dernière à Québec. Donc, des nouveaux. Restons solidaires pour que notre modèle de logement social et communautaire demeure accessible à tous et à toutes et ne contribue pas à tirer les prix vers le haut plutôt que l'inverse. Refusons la marchandisation du logement social, bien sûr. Et bien sûr, le 1er juillet, il y a une mobilisation qui va se faire le 1er juillet, justement, contre le logement cher. Ça s'appelle le Coloc, c'est pas le groupe de musique, là. Et portons l'athlée comme symbole de notre opposition au logement cher. Alors, selon une source gouvernementale, Karine Boivin-Roy souhaite toujours agir pour répondre au constat de la VGQ dans un futur projet de loi. Donc, on verra bien. Mais, l'autre chose qui est parue aussi, justement, sur le site du Frappru ce matin, dans le Journal de Montréal, c'est José Legault, là, Mme Legault, qui n'est pas parent avec, avec François, là, mais qui ne sont pas tous et toutes là, à droite, les gens du Journal de Montréal. Là, on, je sais que Laure Varidel, là, l'excellent article, et d'autres aussi. Et elle aussi, elle est assez, assez capable de parler et de dénoncer des choses. Ben, on parle de l'action. L'inaction sidérante de la CAQ face à la crise du logement. Parce que, dernièrement, justement, là, je sors du texte, mais Mme Fréchette, dans sa solution pour libérer des logements, bon, ben, dit qu'on achète des maisons, puis même, là, il y a sa fameuse don, là, comme telle, subvention qui est donnée à des futurs propriétaires pour, entre autres, payer la taxe de bienvenue. Toujours cette caricature qui monte, le gars, il dit, c'est bien beau, mais à Dastor, il faut payer à la maison, parce que même si la taxe de bienvenue est payée, il reste à faire comme tel, mais donc, c'était sa solution, puis on n'a pas vu grand-chose, là, c'est pas la nouvelle ministre, puis encore là, il faut rappeler que quand Mme Fréchette a été élue chef du parti, elle a refait son remaniement ministériel, mais il y avait 5 semaines là, pour faire tout ça, et la session finit demain. Après ça, évidemment, c'est les vacances, et puis à un moment donné, ben, elle va se rendre voir la lieutenant-gouverneur là, ben, pour aller déclencher les élections. Puis déjà, on voit très bien, il y a déjà plusieurs partis politiques, ici même en Estrie, un peu partout, qui ont déjà plusieurs partis, qui ont annoncé, bien sûr, les candidatures, d'autres qui ne se représentent pas comme telles. Alors, si on vient à la crise du logement, à l'approche de la période des déménagements, et alors que les campements continuent de grossir, cette chronique de José Legault nous rappelle que le gouvernement caquiste en place depuis 2018 aurait pu mettre en place des mesures structurantes pour éviter une telle détérioration de la situation. Inaction béante du gouvernement caquiste face à la crise du logement est choquante et irresponsable. Choquante de par son refus entêté d'agir pour freiner la montée fulgurante des loyers qui sévit pourtant depuis des années. Irresponsable de l'appauvrissement, de par l'appauvrissement qui, par ricochet, frappe de plus en plus de Québécois locataires jusqu'à miner leur capacité à bien se nourrir. Puis, si je te rappelle, entre autres, l'augmentation des fréquentations des banques alimentaires. Mais comment s'en étonner? À Montréal, bien sûr, les loyers ont grimpé de 70% depuis 2019. Ça, c'est à Montréal, mais on peut faire les chiffres aussi dans d'autres villes. En région, les hausses sont aussi marquées, que ce soit en Estrie ou ailleurs. Des milliers de Québécois, femmes et hommes, de tous âges et conditions, sont même précipités à la rue par des loyers qu'ils ne peuvent plus payer. Devant l'absence du contrôle gouvernemental effectif des loyers, la rareté de logements sociaux ou vraiment abordables, parce que quand ils disent, là, on construit des logements abordables, ça dépend ce que c'est, vous voulez dire par abordable, comme tel. Pour ceux qui ont des propriétés à des fins mercantiles, le marché locatif, donc, c'est que ça rapporte beaucoup. Et on parle des reprises de logements. C'est, évidemment, ça s'est fait énormément comme tel. Et trop souvent, ces reprises ne servent non pas à loger un proche comme la loi le permet, mais à vider un logement pour le relouer nettement plus cher. Et vous avez au micro qui vous parle présentement, soit en direct ce matin, ou si vous réécoutez l'émission de ce soir ou demain, sur notre site Internet, ben j'ai vu, de mes yeux vus, et je pourrais vous raconter très souvent de ces manœuvres comme telles, là, illégales, donc évidemment, et qui fait même un propriétaire avait eu l'audace de mettre dans ma salle, il y avait la tribune, là, ben, tous les jours, de mettre dans la tribune son loyer à louer, alors qu'il avait dit à sa locataire que c'était pour son garçon. Ben, alors, voyez, là, je pourrais vous en raconter comme ça. Même laxisme devant la multiplication d'annonces illégales de location de type Airbnb est également navrant. Puis, justement, pendant le Grand Prix de Montréal, là, justement, il y a des gens qui avouent, ah, moi, je loue un Airbnb alors que la ville met des interdictions là-dessus. Voyez bien, on apprend même que de plus en plus de personnes aînées, incapables de payer des hausses exagérées de loyers, sont expulsées de leur RPA. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg, puisque bien des drames humains provoqués par cette crise se vivent en silence derrière des portes closes. Même sous une nouvelle première ministre, la CAQ refuse d'agir. Comme quoi un parti décomplexé pour le libre marché, nonobstant ses dommages sociaux, fait bel et bien de l'ADN des caquistes. En 2023, une enquête du journal montrait que les ministres caquistes possèdent un important parc immobilier qui s'élève à 1,6 million en moyenne par élu propriétaire. Alors que 40 % des Québécois sont locataires, dont 60 % dans la métropole, 90 % des ministres caquistes sont propriétaires, donc un écart assez spectaculaire. Ça vous donne une idée comme telle. Hein? Alors, avant d'aller à la petite pause musicale, ben, on vous parle d'un autre sujet. D'ailleurs, on a reçu ici des gens de différents groupes du communautaire à bout, hein, qui est à bout, puis même plus que ça. Il y a eu là aussi une mobilisation provinciale. Et d'ailleurs, justement, lundi, le 8 juin, donc il y a quelques jours à peine, le communautaire s'est rendu devant les bureaux de la première ministre Fréchette et ils ont déposé une motion de blâme à l'endroit du gouvernement de la Coalition Avenir Québec, parce qu'on a vu toute la mobilisation, même s'il faisait frette, ils sont allés jusqu'au bout. Il y a eu une mobilisation ici en région, un peu partout au Québec. On a reçu, entre autres, des gens de la CDC et aussi de Famille Plus qui étaient les porte-parole. Il y a eu mobilisation aussi qui s'est fait à Québec quelques jours plus tard. Et donc, il y a eu des rencontres, bon, parce que Mme Rouleau, et d'ailleurs aussi là, les groupes communautaires, bon, quand il y a eu la refonte le remaniement ministériel, ben, on espérait que Mme Rouleau soit pas là, mais là, Mme Rouleau a continué d'être là. Bon, voilà. Alors, comme dire à bout, d'abord, on dépose donc comme tel, donc 500 travailleurs et travailleurs du secteur communautaire ont manifesté ce lundi devant les bureaux de la première ministre Christine Fréchette. Ils ont déposé une motion de blâme à l'endroit du gouvernement de la Coalition Avenir Québec. De ce groupe affilié au mouvement communautaire à bout, une cinquantaine qui était bien sûr de Laval, leur présence avait pour objectif de dénoncer l'inaction de Québec à la suite des mobilisations historiques de ce printemps. Effectivement, ça ne s'était pas vu depuis longtemps comme tel. Où le secteur communautaire a coordonné une grève et des services sans précédent dans le but de réclamer de meilleures conditions de travail. Et comme je dis, là, quand on parle de logement, bien sûr, avec mes camarades du CHIP, avec l'Association de locataires, avec d'autres groupes, on a parlé beaucoup de cette situation du logement comme tel. On a parlé beaucoup aussi, bien sûr, du communautaire à bout. Donc, quelques semaines plus tard, des représentants du mouvement, ont rencontré les membres du cabinet de la première ministre et celui de Chantal Rouleau, ministre responsable, semble-t-il, de la solidarité sociale et l'action communautaire. Pendant cette rencontre, ils ont déposé leur demande, soit un fonds d'urgence pour éviter d'éventuelles fermetures d'organismes et une table de négociation rapide pour entamer le dialogue. Selon eux, ce serait silence radio depuis. Autrement dit, on vous reçoit, on vous écoute, on prend note. Mais c'est parce que arrêtez de prendre des notes puis bouger. Hein? Bon, c'est ça que j'ai envie de dire. Moi. Alors, pendant 5 ans, donc, comme tel, tout ce qu'on demande, c'est une table de négociation, de s'asseoir, de discuter. Mais un des porte-parole nous dit, ben, on n'est pas écouté. Alors, ce qui arrive, évidemment, là, comme avec la session, bon, peut-être que pendant les élections, ils vont nous appeler fiston. Mais, alors, donc, évidemment, il va y avoir une action provinciale qui va se faire le 15 septembre à Trois-Rivières. Donc, on va en parler, bien sûr, au retour de l'émission en début de septembre de l'émission Logement et droit. Et bien sûr, que pendant les élections, ça va jaser comme tel. On s'en va donc, attendez un petit peu, je recette les bons affaires, bon, on ne peut pas me faire jouer un tour. Alors, on s'en va en musique, c'est le mois de l'histoire autochtone, le mois de juin, et aussi, ben, peut-être rappeler que justement, on parle de la fête nationale, le 23 et 24, le 24, j'animerai, je vais présenter deux projets d'émission, dont un, une heure sur... Justement, parce qu'on rappelle là, qu'on est sur le territoire Abénaki, d'autres territoires autochtones. Donc, la fête du Québec, c'est aussi sur ces territoires. Donc, une heure sur, à partir de la musique d'autochtones, mais aussi, coupe de réalité, Puis je pourrais en faire 2 heures là-dessus, sur toutes ces réalités qui sont actuellement. Donc, je vous en parlerai plus comme tel. Et justement, quelqu'un qui je trouve très important, Mike Paul, qui est un des grands artistes et un grand défenseur des Autochtones, ben on écoute notre chimite. Et on s'en va à la deuxième demi-heure, comme tel, après la pause.
Tout est dans ce ciel, n'est-ce que ma tortue manteau? Me loin tout dans l'ultime détaillac, soit tout à où il nous retourne. J'espoir tout dans il y en était assis. Écho, ma mourite d'un. We are, we are, yo. We are, we are, no. We are, we are. Te tenando, tamet te doucipet. Le vent se lève, il est temps de partir vers l'intérieur des terres. We are, we are, yo. We are, we are, no. We are, we are, we are.
Il est midi
28 minutes.
La 5e édition de l'Afrofestival de Black History arrive à grands pas. Les 4 et 5 juillet 2026, rendez-vous au Parc Blanchard pour une célébration vibrante des cultures afrodescendantes. Une fin de semaine entièrement gratuite vous attend avec une programmation colorée. Exposants, prestations artistiques, traiteurs aux saveurs d'ici et d'ailleurs, maquillage pour enfants et bien plus encore. Venez découvrir, célébrer et partager des moments inoubliables en famille ou entre amis. Un événement organisé par Black History avec le soutien de la ville de Sherbrooke.
Ici René Cochot. Vous cherchez quoi lire? Je vous suggère d'écouter mon émission littéraire Le Cochot Show, diffusée le dimanche de 13 à 15 heures et le jeudi de 14 heures à 16 heures. En voici un aperçu.
C'est un grand roman que j'ai adoré.
Un 5 étoiles.
Oh oui, moi j'ai clenché ça en 2 jours. Là.
Même si je l'ai lu 2 fois, la 3e, j'ai encore le goût de voir des images. Donc c'est dire, c'est un très 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 beau livre.
Ici Steve Bergeron. Vous vous êtes ennuyé de l'actualité générale à votre radio communautaire? Vous trouvez qu'on ne parle pas assez de certains sujets ou de certains coins de votre belle région? Alors soyez au rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis à 8 h pour nos toutes nouvelles capsules info CFLX. Pour vous, nous allons nous attarder sur les nouvelles qui ne font pas souvent les manchettes, mais qui ont quand même des impacts dans votre communauté. Un nouveau rendez-vous à ne pas manquer les lundis, mercredis et vendredis à 8h, Capsule Info, CFLX.
Papyrus sportive, CFLX 95.5 FM.
Et non pas sportif pantoute, mais c'est ça l'autre, comme tel, pas m'exciter non plus, sauf que ça va être un sport professionnel, c'est mon opinion, là. Devient de grosses industries, là, comme tel, et oui, c'est ça, le millionnaire et le milliardaire, comme tel. Alors, mais, par contre, parler du communautaire à bout, faire justement... Travailler dans le communautaire, et je l'ai fait pendant 16 ans. Je suis encore impliqué, donc, dans différents organismes, entre autres, l'association locataire, bien sûr, membre du conseil d'administration, membre aussi d'un comité, qui est justement Solidarité populaire estrie, racisme et discrimination. Hein? Parce que, même s'il y a de belles choses qui se font, là, comme telles par la ville, on m'a écouté justement avec Black Estrie, tout ça, il y a encore pas mal de travail à faire, même si des fois, il y a des personnes qui vont dire que ça va bien, non, ça va pas si bien. Le racisme, on a vu justement des manifestations comme telles dernièrement, justement à Montréal. Et puis, il y en a eu une, là, en Irlande, là, j'écoutais ça tout à l'heure, là, qu'il y a eu ça, là, parce que là, il y aurait eu un homme, là, un immigrant qui aurait commis un crime, là, il aurait tué quelqu'un. Bon, mais il n'y a pas aucun. Né dans ce pays-là, qui a fait ça. Tu sais, des fois, je comprends pas, là, mais bon. Mais on va parler de l'actualité d'ici. Et justement, actuellement, le sujet, c'est aussi qui revient là, énormément, c'est l'itinérance. Vous savez, il y a bien des années de ça, quand il y avait une personne itinérante à Sherbrooke, puis peut-être dans d'autres villes, mais on va prendre pour Sherbrooke, ce que moi j'ai appris comme tel de l'histoire, là, c'est que quand la police voyait un itinérant, ben, il donnait un billet, pas d'avion, non, mais un billet d'autobus. Il n'y avait sûrement pas le lunch de tout à l'heure à 200 000. Il donnait un billet aller pour Montréal parce que c'est là que ça se passe. Mais là, à un moment donné, ben, il y aura manqué d'autobus. Hein, et ça se. Donc, actuellement, il y a eu tout ce mouvement comme tel. Et dernièrement, Mme. Pauline Marois, l'ancienne chef du Parti québécois et premier ministre du Québec, avec un groupe, justement, de personnes influentes, lançait tout un message, et même c'est elle qui était porte-parole, comme telle, disant qu'elle les prendrait dans ses bras. Ben, ce qu'elle a oublié dans l'histoire, il faut regarder l'histoire aussi, elle a été première ministre, et le Parti québécois, sous son règne, a été là, et entre autres, quelqu'un soulignait à un moment donné que pendant qu'elle était, le peu de temps, parce qu'elle a à peine moins de 2 ans là, au pouvoir, parce qu'elle avait fait des élections anticipées pour avoir la majorité, bien finalement, c'est plutôt Couillard qui l'a eu, le Parti libéral. Bon, elle avait coupé les chèques d'aide sociale à 50 $, de 50 $, pas 50, mais de 50 $. Bon, alors, parce que justement, on a abordé, justement, avec, il y a eu une très belle entrevue avec Geneviève Bouchard, d'Action Plus Estrie, justement, la soirée qu'il y avait eu à la Maison du cinéma, ça m'est arrivé, sur l'aide sociale, donc qui enlevait les complexes, toutes les choses qui sont véhiculées sur les gens à l'aide sociale. Donc, c'est tous les préjugés, je cherchais le mot exactement. Alors donc, évidemment, très souvent, ben, quand quelqu'un n'a pas les moyens, bien, il se retrouve à la rue. Et dernièrement, il y avait quand même une bonne nouvelle du niveau de la ville. Laure Tartlavoie, qui est directrice maintenant au niveau de l'office municipal de Sherbrooke, m'a donné quand même des chiffres pour 1er juillet encourageants. Quelques ménages locataires à la rue. Par contre, sans vouloir là, être négatif, bien, il y a des familles à la rue, mais il y a des gens qui couchent dans la rue. Et de tout âge, hein, comme tel. Alors donc, ce cri de Mme Marois puis de d'autres a été entendu comme tel. Il y a eu, bien sûr, aussi des les maires des villes canadiennes, les maires du Québec, plein. Et ce matin, il y avait justement dans le je pense que c'est le Radio-Canada, donc l'article sur, sûrement peut-être que ça va venir aux nouvelles ce soir, c'est René-Charles Quirion, un excellent journaliste de Radio-Canada, qui publiait hier, ben, le phénomène de l'itinérance s'amplifie à Sherbrooke. Fait qu'on va parler de Sherbrooke, mais comme je vous dis, il y a bien des années, puis ça s'étend à des villes comme Magog, Coansville, bon. C'est ce qui est ressorti du bilan 2025 du plan d'action municipal en matière d'itinérance de la ville de Sherbrooke 2023-2026. Alors, donc, c'est assez récent comme tel, puis on sait évidemment que la mairesse de Sherbrooke, là, donc, c'est pas. Puis plusieurs maires et mairesses, entre autres, celle de Montréal, a travaillé tout un plan, entre autres, parce qu'on sait que là-bas, là, la mairesse précédente, là, s'amusait pas, mais essayait de détruire les camps. C'est plutôt de trouver une autre solution. La nouvelle mairesse comme telle, Québec, ça, puis, on pourrait tout dénommer. Donc, ça a été déposé, ce bilan-là, au comité plénier à l'hôtel de ville mardi. Le nombre de personnes en situation d'itinérance se situe à 133 par 100 000 habitants, ce qui place Sherbrooke au cinquième rang québécois devant la capitale nationale et la Montérégie. Donc, c'est pas seulement un problème qui touche la métropole. Les petites villes dans les régions sont aussi touchées, bien sûr, a signalé Mme Bibeau, mairesse de Sherbrooke. La table sur l'itinérance, qui regroupe les services municipaux, les organismes communautaires, le CIUS de l'Estrie, est citée en exemple, selon la mairesse de Sherbrooke, qui siège au comité en itinérance de l'Union des municipalités du Québec. À Sherbrooke, on se distingue par notre concertation, notre capacité à travailler ensemble. Puis d'ailleurs, quelqu'un m'envoyait là, justement un extrait de ce qui s'est passé au conseil municipal, justement, le conseil municipal du quartier, Karine Godbout, parlait justement de tout ce partenariat, parce que, entre autres, bien sûr, c'est dans son arrondissement, entre autres dans le centre-ville, autour de, que se passe beaucoup cette situation-là comme telle, mais aussi toute l'itinérance, ça sort du texte, là, souvent, l'itinérance cachée. Donc, des gens qui vivent chez un puis chez l'autre, qui changent de place, d'autres aussi qui s'entassent dans les logements comme tels, cette itinérance-là est grande. Je crois qu'on se distingue par cette concertation, puis justement, il y avait aussi l'intervention de Karine Godbout, conseillère municipale de district ici, là, qui faisait ça. Mais par contre, ben, tout ça, il y a les maires et les mairesses, des villes, bon, au fédéral, là, il n'y a pas eu beaucoup de réponses, mais c'était dans le devoir, justement, qui, parce que là, comme je vous dis, Mme Fréchette essaye évidemment de tasser un petit peu ce qui s'est fait par M. Legault comme tel, c'est de se montrer bien gentil, mais il reste que c'est la CAQ, hein? Bon, alors, et dans le devoir, ben, c'est Christine Fréchette refuse de s'engager à tenir un sommet sur l'itinérance. Donc, évidemment, c'est une déclaration qui est faite là, par Guillaume Clich-Rivard, puis pas parce qu'il est député de QS, mais parce que je pense qu'il représente aussi pas mal de monde comme tel, là, qui pense la même chose. En pleine crise de l'itinérance, il est inacceptable que la CAQ refuse de s'engager à tenir un sommet national sur la question, alors que tous les acteurs du milieu, comme vous dites, c'est pas juste là. Les gens du communautaire, là, c'est des quand les maires, puis les mairesses, c'est la même chose, on va parler tout à l'heure du PEC, là, qui est une mobilisation aussi. Bien, que tous les acteurs du milieu en reconnaissent la nécessité. Puis dernièrement, justement, quand j'ai reçu, entre autres, ben, il y avait Geneviève Bouchard, d'Action Plus Estrie, mais il y avait aussi Andréa Véro, qui est directrice, justement, de Travail de rue, Coalition de Travail de rue. Ben, elle sortait de deux jours où, justement, les intervenants et intervenantes du milieu en ont parlé. Alors, un tel sommet doit permettre de coordonner des mesures de prévention solides pour enrayer les hausses abusives de loyers. Parce que, encore là, on le rappelle, ça s'appelle logement indroit, Mais ce droit-là, il n'est pas respecté. Ce qui fait qu'il y a des personnes, s'il y a de l'itinérance, c'est parce que les gens ne peuvent plus payer le loyer. Pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne peuvent plus. Hein? Et toutes les évictions, on a parlé tout en assurant les réintégrations en logement avec soutien communautaire pour ceux et celles qui vivent actuellement dans la rue. La crise des tyrans n'est pas une fatalité. Ensemble, on peut s'y attaquer. Donc, c'est assez clair comme message, là. Hein? Alors, l'itinérance, comme vous dites, là, il y a moins de familles, peut-être, qui vont être hébergées par la ville au 1er juillet. Mais si on regarde dans d'autres villes, la situation est assez alarmante aussi, là. Bon, je sais que le service de service d'aide au logement, le SAR, là, bon, contribue quand même, mais ce qui est la réalité, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de logement parce que même si on leur met une liste de logement, ils n'ont pas les moyens d'eux. Un dossier, justement, qui a été aussi très chaud, et d'ailleurs, on en a parlé comme tel, puis moi, évidemment, je suis pas neutre, là. Quand je reçois les invités, c'est parce que j'embarque avec eux autres dans leurs affaires, j'embarque dans leurs manifs comme tel, sur des comités. Et bien sûr, le gouvernement Fréchette qui a annoncé, là, tout dernièrement, la relance du PEC. Donc, évidemment, c'est clair, là aussi, bon, le ministre qui était là à ce moment-là, là, c'est le nouveau ministre de l'Immigration, qui est François Bonnardel, qui était parti, puis qui est revenu, bon, dans toute la... avec la fin de l'ère Legault. Bon, c'est ça. Fait que le ministre Roberge, qui, lui, avait... Bon, il a gardé quand même quelques parties, là, où il fait sa marque quand même, mais il avait annoncé la fin de ce programme-là. Programme l'expérience québécoise. Mais il y a eu toute une mobilisation, puis on a eu le plaisir ici, je gassais Sabrina Philippon, qui justement, a vécu cette réalité-là. Je disais, t'es habitué avec les rois, parce qu'elle a passé à Radio-Canada avec Patrice Roy, quand même, là. C'est pas mal plus important que moi, là. Mais il reste que cette réalité-là, donc... Mais, et ça, Mme Fréchette là, l'avait promis, donc mercredi après-midi, donc hier, la réouverture du programme d'expérience québécoise pour 2 ans apprenait. Donc, le ministre de l'Immigration, M. Bonnardel, donc, il a tenu une conférence de presse après la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, parce que de ça, là, il travaille la broue dans le toupette, hein? Bon. Alors, bon, le gouvernement... donc, la cible a été établie à 45 000 immigrants permanents et accueillis par année d'ici 2029, dont environ 29 000 dans la catégorie immigration économique. C'est dans celle-ci que seront admis les candidats du PEC et aussi au PSTQ. Deux programmes qui continuent de fonctionner en parallèle durant la transition indiquent des sources du gouvernement. Si la répartition est à peu près égale, il est attendu que les dossiers de près de 14 500 personnes soient acceptés durant les 2 prochaines années dans chacune des voies d'accès vers la résidence permanente. Le ministre Bonnardel, qui avait promis d'adopter une approche plus humaine en immigration, a consulté plusieurs partenaires. C'est une bonne affaire, des fois, de consulter, hein? Dans les dernières semaines, notamment ceux du monde municipal. Pas encore là, on le rappelle. Il y a eu une mobilisation, entre autres, la même journée, le 7 février, c'est même moi, il faisait frette, pas froid, il faisait frette, dans plusieurs villes du Québec. Ben, il y avait eu une mobilisation, dont ici à Sherbrooke, comme tel. Et puis, justement, encore là, c'est pas juste là, les groupes communautaires. Les maires et mairesses disaient, ça nous prend. Les employeurs, les conseils du patronat disaient, on a besoin de ce monde-là. En santé, il était venu, entre autres, à l'Hôtel de Ville, un discours, justement, représentant de la Fédération de la FIC et aussi de représentant de la PTS, parce qu'il disait, si vous ne faites partie, nous autres, on perd. Et, entre autres, Sabrina Philippon fait partie des gens qui travaillent dans le milieu médical et d'infirmières de profession. Donc, faire part de leur intention. Donc, c'était important que ça se fasse. Comme vous dites, il y a eu toute une mobilisation comme telle, donc des centaines ont participé à une manifestation, bien sûr, à Montréal, à Québec, mais aussi, comme vous dites, là, on parle de l'Union des municipalités du Québec, l'Union de la Fédération québécoise des municipalités, mais aussi les chambres de commerce, puis les syndicats. Hein? Bon, évidemment, là, les élections s'en viennent, on le rappelle comme tel. Et je lisais ce matin, justement, sur la page Facebook de Sabrina Philippon, qui, elle, évidemment, a vécu cette réalité-là. Sont allés chercher en France, revenus, vécu cette réalité-là. Et ce qu'elle disait, bon, parfait, victoire, mais il y a quand même, il faut quand même, là, il y a toujours quelque chose comme l'incertitude quand même qui peut arriver. Donc, une zone d'ombre. Parce que, il faut dire qu'il y a eu quand même, comme tel, des gens qui ont été touchés par ça. Aussi du stress énorme. Et ça, comme je vous dis, Sabrina nous l'avait révélé lors de l'entrevue qu'on a eue comme telle. Et ça, je peux vous dire, c'est ça que ça a été quand même quelque chose d'assez épouvantable comme tel. Alors donc, oui, quand je dis, il y a quand même... c'est quand même important ce qu'elle nous dit, là. Il faut faire attention à la victoire, mais quand même, il y a toujours d'incertitudes qui peut se produire comme telle. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... et comment ça va être réglé comme ça? Puis comme je vous dis, là, évidemment, là, ces prix-là, pour 2 ans, est-ce que s'ils arrivent, s'ils sont réélus, parce qu'évidemment, les sondages... Il voyage là, de ce temps-là, mais si c'est un autre gouvernement qui est élu, est-ce qu'ils vont garder ça? Fait que c'est beaucoup de choses qui arrivent, là. Actuellement, c'est comme... Il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées, d'ailleurs, là, dernièrement, quand Mme Fréchette puis sa gang de ministres puis de députés ont venu faire leur épicerie à Sherbrooke, là. Bon, justement, il y a eu les groupes communautaires. Il y a eu des annonces faites comme telles, mais c'est plate que ça arrive, puis on voit aussi, bon, justement, il y a dans les projets de loi, Gabi, qui justement là, est saluée par tous les groupes, justement, défense de droits des femmes, qui... Mais faut pas attendre... Il y a eu plein de féminicides, et très souvent, a été reproché au gouvernement de la CAQ, justement, de pas tenir compte de tout ça. Fait que, donc, là, il arrive cette loi-là qui fait que des renseignements peuvent être pris pour voir le passé, justement, de conjoint, un passé violent, pour éviter des violences comme telles et encore plus des féminicides. Il y a aussi, sur les boissons énergisantes, là, c'est tout un... mais pourquoi attendre tout en dernière minute pour arriver avec des projets de loi pour... alors que des réalités comme telles, alors... C'est ça, des fois, qui est reproché, puis qui fait que certains vont mettre des freins à ça. Alors, donc, fin de session. Là, il y en a un que j'essaie de voir, si vous avez l'information, tant mieux, comme tel. C'est le fameux projet de loi 1, puis d'ailleurs, on en a parlé beaucoup. Oh, il y a eu, si vous avez vu, la semaine passée, il faisait beau, toute la semaine, ben oui, devant le palais de justice, je ne sais pas si les pancartes sont encore là, mais devant le palais de justice, les groupes communautaires. D'ailleurs, ils s'étaient réunis le lundi aussi avec le communautaire à bout pour justement rappeler la situation qu'on vient, puis qui annonçait aussi l'action du 8 juin, mais aussi devant le palais de justice pour dénoncer justement le projet de loi 1 du ministre Jolin Barrette, comme certains se disent souvent. On préparait ça dans son salon, comme tel, peut-être en prenant un bon verre de vin. Donc, et évidemment, chaque fois qu'il y avait la commission, là, présidée, entre autres, par M. Bachand, député là, sortant, puis qui va sortir, parce qu'il ne reviendra pas, de Richemont, bien sûr, entre autres, il y a ce manque de consultation, comme tel. Alors, je ne sais pas si... Je sais que j'ai pris une petite brime sur Facebook un matin. Là, il y avait un député qui mettait sa dissidence face à ça. On sait que pour un projet, à moins de l'amener sous le baillon, ben, pour qu'il soit vraiment adopté, il faut que tous les députés, puis là, ben, c'est sûr qu'il y en a qui entre autres Québec solidaire, qui s'y opposent comme tel. Et la semaine passée, quand on a parlé justement avec jeudi dernier avec Pascal Florent de Solidarité Populaire Estrie, avait parlé avec Christine Lebris, oui, qui disait que selon elle, il n'y aurait pas le temps de le passer. Mais là, évidemment, il reste encore jusqu'à demain. Ben oui. Donc, ce projet de loi 1, donc, évidemment, entre autres, on parle de 800 organisations de la société civile qui ont demandé le retrait, quand même. Encore là, comme je vous dis, là, c'est quand même, c'est 800 organisations qui ont demandé le retrait complet du projet de loi 1, dont, qui sont auprès de la, pour justement que la première ministre entende ça. Cette constitution est une offensive autoritaire qui menace la protection des droits de la démocratie québécoise et c'est crucial de maintenir la pression pour exiger son retrait. Oui, donc, les oppositions au projet de loi 1 sont massives et ne peuvent être ignorées. Je vous le rappelle, bien sûr, dans les groupes, bien sûr, les groupes communautaires vont dire, nous autres, on est habitués de Charlie, hein, mais on parle de 800 groupes de nombreux secteurs de la société civile qui ont signé conjointement une déclaration qualifiant ce projet de loi-là d'attaque contre la démocratie et les droits humains et exigeant son retrait complet. Le Barreau du Québec a exprimé de sérieuses préoccupations concernant les dispositions du projet de loi 1 qui menacent, entre autres, la séparation des pouvoirs, muselle les contre-pouvoirs, créent une instabilité juridique et affaiblissent les droits fondamentaux. Quand même, hein? Et entre autres, pour les groupes communautaires, entre autres, c'est assez. Ensuite, la Commission des droits de la personne et la jeunesse, le CDPD, ce qui est souligné, que le projet de loi 1 marque un recul majeur des droits et libertés protégés par la Charte québécoise. Et enfin, dans ses observations finales sur le Canada, le Comité des droits de l'homme des Nations unies, hein, c'est pas un petit club de rien, là, a exprimé ses préoccupations concernant le caractère antidémocratique du processus d'élaboration de ce projet de constitution. Et entre autres, on parlait tout à l'heure des peuples autochtones. Eh bien, justement, lorsque le chef des Premières Nations est allé, mais il a été reçu, évidemment, avec pas une belle façon, le monsieur. Et surtout, ils ont... ce qu'il a dit, il dit... Nous sommes venus, même si on n'a pas été invités. Alors, donc, comme vous dites, c'est vraiment... Donc on ne parle pas d'avoir des amendements, là. C'est complètement le retrait immédiat. Fait que d'ici à demain, là, comme je vous dis, je vais essayer de voir s'il y avait de l'information là-dessus. On va suivre ça. C'est bien sûr comme tel. Alors, c'est vraiment ça. Donc, ça fait le tour, pas mal de choses qui, comme vous dites, qui se passent comme tel. Vous rappelant, bien sûr, que tout au cours de l'année, la semaine prochaine, la dernière de la saison, bien, la dernière chronique de la saison aussi, de Stick Stay Cheap, de ce magnifique groupe de camarades, de jeunes femmes, de jeunes hommes, très engagés, puis des fois enragés, parce qu'il y a tout ce qui se passe dans le logement, tout ce qui se passe comme tel au Québec, et ailleurs comme tel, enrage comme tel. Alors, ça a été des collaborateurs, collaboratrices précieux et précieuses, ainsi aussi que tous les gens qui ont défilé aussi de différents groupes communautaires comme tels. C'était vraiment, je pense, des années de comme tel, que ce soit premièrement tous les jeudis, hein, parce qu'à un moment donné, on a du stock en masse, là, juste à ce matin, ce qu'il y a là. On a de quoi en parler en masse, et surtout aussi d'avoir de tous ces sujets. Et là, justement, des fois, il arrive à le faire, puis bon, ben là, c'est, l'émission est dans deux semaines, mais là, non, là, elle est aux semaines. Fait que ça, c'est une façon de rester comme tel. Alors donc, de cette équipe de collaborateurs et collaboratrices, on a abordé beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets comme tel. Et puis, une saison, donc, qui se complète la semaine prochaine avec le chemin droit, avec la première demi-heure, avec... Et bien sûr, on va trouver, puis on a, sûrement qu'on pourra faire un petit retour sur la session parlementaire et voir si ce fameux projet de loi 1 va sauter, boum, comme tel. Alors sûrement que, comme vous dites, et ce qui était cette année important, c'est qu'en plus, justement, c'est vraiment la mobilisation. On l'a vu, justement, pour le projet de loi 1. On l'a vu pour le communautaire à bout. On l'a vu pour le retrait du PEC. Il y a eu plein de mobilisations. Puis évidemment, on s'entend que là, il y a des élections qui s'en viennent. toute la saison d'automne. Pendant l'élection fédérale, j'ai poursu le candidat. J'ai envoyé des questions, poursu beaucoup de réponses, mais des candidats, ce sera un peu le même genre. Je vais laisser à d'autres. Et je pense que ce qui va être important, c'est de donner la parole au groupe, justement, pour qu'ils puissent dire leurs revendications qu'ils portent envers, pas juste le gouvernement qui est sortant, mais de tous les cinq partis politiques principaux comme tels, qu'est-ce qu'ils pensent de tous ces sujets-là. Alors, je vais vous laisser avec, justement, je parle de, il y aura une programmation spéciale, bien sûr, le 23 et 24. Mais le 24, comme je vous disais tout à l'heure, j'aurai une heure sur la situation et la musique autochtone, bien sûr, les Premières Nations qui sont les gardiens et propriétaires de ce grand territoire qui est le nôtre. Mais alors aussi, je ferai une émission spéciale d'une heure. Hommage à Félix Leclerc cette année, durant l'été, à Montréal et à Québec, il y a un spectacle hommage. Alors, moi, j'en ferai un spectacle, je ne chanterai pas, il n'y a pas peur. Mais présenter des grands succès. Puis aussi, ce grand homme qui est la station de Saint-Félix porte le nom de Saint-Félix en son honneur. Et ce grand Québécois, fait qu'il y aura une émission spéciale aussi. Puis justement, ben, il y a la chanson « Attends-moi, petit gars ». Puis des fois, les gens, il y a un couplet, bien sûr, qui parle des élections. Quand je dis ça, l'autre jour, il y a un monsieur qui écoutait, puis la manif qu'il y avait devant le métro, là. Je vais aller voir ça. Alors, on parle de plein de choses, puis cette chanson qui était vraiment, pour l'époque, très révolutionnaire. Fait que je vous laisse là-dessus, la programmation aussi de Saint-Félix, et on se donne rendez-vous pour la dernière de la saison, la semaine prochaine, dès midi. Et comme vous dites, l'émission sera aussi en rediffusion pour, justement, puis suivre. C'est important de suivre l'actualité, pas juste, justement, je sais qu'il y a bien le sport qui a été suivi, là, mais je pense que c'est du sport de suivre l'actualité, de voir aussi toutes les atteintes, justement, au, puis ce qui se passe dans le monde actuellement aussi, les guerres un peu partout, comme tel, ce désir de pouvoir et de dominer, comme tel, par des centaines et des milliers de morts inutiles, comme pas vraiment de personnes innocentes comme telles. Voilà pourquoi on porte le coquelicot blanc pour les victimes des guerres, alors de toutes les personnes. Alors voilà donc, je vous laisse cette chanson du grand Félix Leclerc et bonne écoute à l'émission le restant de la journée, bien sûr, et on se retrouve jeudi prochain.
La voisine arrive de nous autres, parce qu'on avait 12 enfants, pour changer son fusil d'épaule, depuis qu'elle en a autant. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Patron te raconte que t'es adroit et gentil, sois sûr que t'es le nigaud qui fait marcher son bateau. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Il est joli, il est riche, il est poli, mais une chose l'ennuie, c'est son valet, quel génie. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. L'argent est au bas de l'échelle et le talent part en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Parce que j'avais pas de manteau, j'ai pris la peau de mon chien. Tu vois qu'il n'y a pas plus salaud que moi qui chante ce refrain. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Va à droite, c'est à gauche que je m'attelle. Pour qu'aux enfers on rejette, on sort vers la tête au ciel. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Couplet censuré.
Il est midi
58 minutes.
Avec les artistes, avec la communauté, avec toi. Le Festival Avec est de retour pour sa 5e édition. Du 5 au 14 juin, viens découvrir des artistes d'ici à travers plus de 40 activités entièrement gratuites. Théâtre, cirque, danse, marionnettes, musique, conte, clown et ateliers de création vous attendent au Parc du Domaine Howard. Découvrez toute la programmation au festivalavec.ca. Avec les artistes, avec la communauté, avec toi. Le Festival Avec, du 5 au 14 juin.
CFLX présente en projection l'album indomptable du Diable à 5. Cinquième opus pour la formation de musique traditionnelle de l'Outaouais, il nous offre du matériel où compositions et répertoires traditionnels se côtoient pour célébrer les 10 années d'existence du groupe.
Ces choses accumulées, oh, j'ai fait une belle trouvaille dont je vais maintenant vous parler. Ce n'était pas une vieille cafetière, ni une des seigneuries en polymère.
Ce sont des pièces qui sont rassembleuses et dans le tapis que vous découvrirez avec une complicité palpable.